facile. Tu dépends de la caféine. Tu t'es même fait brancher un espresso par intraveineuse. Cheez a la solution pour toi. Les matins de semaine, de 8h à 9h30, l'équipe de l'Allongée t'aide à commencer la journée du bon pied. Informations, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'Allongée, seulement sur les ondes de Cheez 94.3. Bonsoir, chérie!
Bonsoir!
J'arrive du travail! Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc?
Non, non, non. Ah, chérie, j'arrive! Qu'on sort pour c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine, de 16h à 17h30.
Oh ben!
Jeunes et aînés solidaires, votre émission hebdomadaire sur Cheez qui tisse des liens entre les étudiants de l'Université Laval et les aînés de la capitale nationale. Oui, tous les samedis de 11h à midi, Jeunes et aînés solidaires ouvrent le micro aux jeunes et aux aînés pour vivre ensemble un moment intergénérationnel à travers différentes rubriques. Portraits, mentorat, trucs et astuces des aînés et des étudiants, tous les samedis de 11h à midi. Avec Jeunes et aînés solidaires, changeons le regard de la communauté sur le vieillissement.
Bon dimanche tout le monde, vous écoutez Tête de Hockey, mon nom est Félix Duchesne, je suis en compagnie de mon co-animateur habituel Raphaël Couterillou. Salut Raphaël.
Salut Félix.
Et pour une autre semaine, on vous parle de hockey bien évidemment, on a beaucoup de sujets à couvrir cette semaine, mais on va commencer en vous rappelant que les Remparts ont gagné juste avant notre émission cet après-midi contre l'Océanique de Rimouski, non je me trompe, c'était contre les Sags de Chicoutimi, c'était au centre du Vidéotron, ils ont remporté par la marque de 5-2 et sont au premier rang de la GMQ à égalité, dis-je bien, avec les Mooseheads d'Halifax à 103 points. Non loin d'eux, dans l'association Ouest, il y a l'Olympique de Gatineau, les Olympiques, on devrait dire, de Gatineau à 100 points. Et on en parlait la semaine dernière avec Jason Hood. D'ailleurs, si vous avez manqué cet entretien avec cet ancien joueur des Remparts, allez sur le site, là, Cheez.ca, trouver Tête de Hockey, et c'est l'émission de la semaine dernière. On a parlé entre autres des Remparts qui vont quand même bien cette année.
Absolument.
Puis c'est la dernière année de Patrick Roy. Si tout se maintient, si la tendance se maintient. Donc, c'est fait, on a parlé des Remparts. On veut maintenant vous parler, bien évidemment, de la Ligue nationale. C'est notre Ligue chouchou. On vous parle à toutes les semaines des prospects qu'on appelle dans le milieu, finalement, des recrues. Qui sera les champions de demain? Et ben, on le saura plus précisément le 8 mai prochain. Et oui, le 8 mai, on a su ça cette semaine, Raphaël, que la Ligue nationale, ils vont faire leur loterie. Ce sera le 28 juin, le 29 juin, ça c'est pour le repêchage.
Oui.
Mais la loterie va avoir lieu le 8 mai.
Oui.
Et je pense que c'est un peu aussi une confirmation à savoir qui aura Connor Bedard, parce que là, peut-être que tu pourras me donner des précisions sur à la loterie. Est-ce que c'est les 5 premiers? Est-ce qu'on en a plus? Mais une chose est sûre, on va savoir pour le premier rang. Et ça, cette année, c'est incontesté, ce sera Connor Bedard. Toi, quand tu as su cette nouvelle-là, le 8 mai, est-ce que tu t'es dit il y a des choses qui peuvent changer un peu, ou je parle évidemment pas pour Connor Bedard, mais pour les autres choix, mais voilà, comment t'as réagi à cette nouvelle-là qu'on sera le 8 mai? Où ira Connor Bedard?
Ben, c'est excitant, c'est certain, là. Connor Bedard, on parle d'un joueur quand même assez spécial, là. Ouais. Certainement le meilleur espoir, là, depuis 2015, là, depuis l'année à Connor McDavid. Mm-hmm. Tu sais, il y en a eu plusieurs bons, là, Austin Matthews, Jack Hughes, mais Connor Bedard, c'est vraiment un niveau assez élevé d'espoir. Donc, c'est le genre d'espoir qui vient vraiment changer une franchise.
Ouais.
C'est un joueur de franchise. C'est à suivre. Pour le premier au total, dans le fond, ça va jusqu'à la 11e pire équipe qui a 3% de chance d'avoir le premier au total.
Mais le 8 mai, ça veut dire qu'on sera seulement le premier, on sera pas, mettons, les trois autres.
L'ordre va être su jusqu'au 16e.
OK.
Exactement.
OK, parfait. Ouais.
Puis ensuite de ça, ben évidemment, les 16 autres équipes sont les équipes en série. Le restant de l'ordre est déterminé selon les séries.
Ouais.
Mais les 16 premiers, l'ordre de 1 à 16 va être déterminé là, le 8 mai. Puis c'est ça. Puis quand on regarde présentement là, le classement, là, notre top 3, si tout se maintient, tout est dans l'ordre parfait, ce qui arrive rarement à la loterie de la Ligue nationale parce que les pourcentages sont pas si élevés que ça, mais on aurait Chicago qui aurait le 3e choix au total, San Jose le 2e et Columbus le 1er. Donc à suivre, comme je mentionnais, les chances au premier, la dernière équipe du classement a 25,5% de chances d'avoir le premier au total. Donc c'est pas énorme. Là. Une chance sur 4, c'est pas tant que ça. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc ça va être intéressant là, de suivre ça.
Ben j'ai hâte de voir évidemment aussi parce que on va pouvoir savoir pour le Canadien, pour les Devils qui vont faire les séries cette année, ce sera un peu moins une surprise.
Puis les Devils aussi ont échangé leur choix de première ronde pour Timo Meier, donc ils ont pas à moins qu'il y ait du mouvement au repêchage, ce qui est possible.
Ouais.
Ils ont pas de choix de première ronde. Oui, exactement. Donc c'est ça.
Je l'ai dit un peu dans notre présentation que cette année ce sera du côté de Nashville. On a voulu aller dans la ville de la musique, la ville du country. Mmh. La loterie le 8 mai, mais aussi les deux soirs de repêchage, les deux journées même. Donc le 28 et le 29 juin, ce sera à Nashville. Et on peut s'attendre à beaucoup de spectacles, mais ce qu'on va attendre de voir, c'est bien sûr les choix que les équipes feront.
Absolument.
On a on en a parlé depuis qu'on a commencé l'émission, on voit dans le top 5. Top 1, Connor Bedard, bien évidemment. Et Adam Fantilli, probablement deuxième choix assuré. Troisième, on a Leo Carlson, si je me trompe pas, qui est pas mal le top 3 choisi. Après, on a...
Il y a Michkov, évidemment.
Michkov, oui.
Michkov, purement au niveau du talent, selon moi, c'est le deuxième meilleur espoir. Mais il y a toujours un risque avec certains joueurs russes qui ont des contrats en Russie. Donc, Michkov, si on repêche Michkov, on s'attend pas à le voir en Amérique du Nord avant encore 2-3 ans. Là. Donc, c'est certainement un risque. Mais au niveau du talent, il est certainement top 3 cette saison. Tu l'as mentionné, sinon Adam Fantilli, qui risque de sortir numéro 2, qui a connu une saison là assez incroyable avec l'Université du Michigan dans la Ligue Big Ten dans la NCAA aux États-Unis. On parle de presque 2 points par match là pour Fantilli, pour un freshman. Donc un freshman, un joueur de première année universitaire. C'est assez incroyable là. Donc un gros joueur de centre qui est imposant, qui a une bonne touche offensive, 6 pieds 2, 190 livres à 18 ans, ça a du bon sens. Donc on garde un œil sur lui, mais moi je pense que ça va être un excellent joueur, pour le même niveau Connor Bedard, mais ça il y a personne qui l'est, donc c'est ça, on garde un œil là-dessus. Puis tu l'as dit aussi là, Leo Carlson qui est un excellent espoir qui vient de la Suède aussi.
Et pour finalement boucler le top 5, est-ce qu'on a un autre, on parlait peut-être de Will Smith?
Il y a Will Smith que je vois bien là-dedans. C'est probablement lui là, mon cinquième choix.
Donc on a un top 4 qui est pas mal béton,
qui est
en
pas mal
date
établi,
aujourd'hui du 19 mars, mais on va voir comment ça va peut-être bouger un peu et dans la réalité on le sait jamais comment ça va se passer. Et on rappelle que ce sera le 28 et le 29 juin du côté de Nashville. De savoir cette date de loterie là, bien sûr le 8 mai. Si ma mémoire est bonne, c'est pas mal le temps où les séries vont soit être sur le point de se terminer
habituellement les séries se terminent vers la mi-juin. Donc c'est un peu à la moitié des séries habituellement. Puis c'est un moment excitant là pour les équipes, les fans des équipes qui sont pas en série là. Moi je l'ai vécu beaucoup avec les Devils, c'est l'année passée, on a monté, on s'est ramassé au deuxième choix, on a repêché Simon Nemeth qui est un des meilleurs espoirs défenseurs dans la ligue.
Ouais.
Donc c'est le fun aussi, tu sais, faut voir un peu de valeur dans le processus de reconstruction d'une équipe. Il y a quelque chose de plaisant là-dedans, tu sais. C'est le fun de gagner, mais de voir le futur qui commence à devenir de plus en plus brillant, mais c'est le fun aussi.
Et évidemment, ceux qui suivent le Canadien de Montréal, vous savez qu'on est en pleine reconstruction. On commence, on trouve ça un peu moins plate d'être dans la cave du classement. On s'habitue. Et on va vous parler de reconstruction avec les Flyers, notamment, à l'émission. question. Restez avec nous, on va vous parler de Daniel Brière. Mais oui, je voulais parler de la course aux séries. Mm-hmm. Du côté de l'Est, on a beaucoup, beaucoup de compétitions. Il y a les Bruins de Boston qui ont déjà, entre guillemets, sécurisé leur place avec un score fabuleux de 111 points déjà. Ils ont été l'équipe la plus rapide à atteindre le cap des 50 victoires cette saison. Et si je ne me trompe pas, c'est un record aussi dans la Ligue nationale. Mais on veut parler de la course, là, de ceux qui réussiront ou pas à avoir la place qu'on a. On a dit en français, ce serait peut-être la carte du Joker, le wild card, oui, comme on dit en anglais. Il y a les Penguins de Pittsburgh qu'on croyait bien en place à cet endroit-là. Sinon, il y a les Islanders de New York. Ça se bouscule, là. On a les Panthers aussi qui veulent rester en série. On sait qu'ils ont une moins bonne saison de l'année dernière, mais on va y aller une chose à la fois. Donc, dans l'Est, ceux qui sont pratiquement assurés de faire les séries, on l'a dit, Boston, Toronto, Tampa Bay, Caroline, New Jersey et les Rangers. Mm-hmm. Là, il reste deux places à garder dans cette association-là. Donc, on a les Islanders de New York avec 71 parties jouées. Ça, c'est deux de plus que leurs compétiteurs, finalement. Ouais. Avec donc 71 parties jouées, 80 points. On a Pittsburgh et la Floride avec 69 parties jouées. Mais Pittsburgh est à 78 points, Floride à 77. On va juste regarder ce trio-là, là, les Islanders, les Penguins et les Panthères. Comment tu penses que ça va terminer?
C'est une bonne question. Comme tu l'as mentionné, là, les six équipes dans l'Est qui sont déjà en série présentement sont assez cémentées, là, je veux dire. Ouais. Les équipes numéro 3 dans les deux divisions dans l'Est sont à 90 points chaque. C'est ça. Puis le premier wild card, entre guillemets, est à 80 points. Donc, je veux dire, il y a pas...
Ça
devrait rester comme ça. Selon moi, je pense que ça va être Pittsburgh et la Floride qui va percer. Ouais. Les Islanders ont deux matchs déjà de moins à jouer que Pittsburgh et la Floride, puis sont seulement à deux points là. Puis moi, les Islanders m'inspirent pas nécessairement.
Ils sont allés chercher Boervat pour essayer de faire les séries.
Exactement,
mais,
exactement.
Si je regarde là dernièrement dans leur classement pour ils ont quand même deux victoires de suite dans leurs 10 dernières. Sont à 6 victoires, 3 défaites, une défaite en prolongation. Ça va quand même plutôt bien si tu veux. Du côté de Pittsburgh, ça va un peu moins bien. Là, on a 5 victoires, 4 défaites, une défaite en prolongation. Du côté de la Floride, ça va bien, par contre. 7 victoires, 2 défaites, une défaite en prolongation.
Les Penguins m'inspirent pas vraiment non plus. Bien honnêtement, là, ça va pas bien ces temps-ci pour eux. Les Panthers, d'un autre côté, ils jouent avec beaucoup de désespoir, beaucoup de motivation, puis ça se voit. Ça m'étonnerait pas que les Panthers rentrent dans les séries en étant le premier wild card, puis ensuite de ça, ça va jouer entre les Pingouins et les Islanders.
Ouais, on va suivre ça. Et si on va du côté de l'Ouest, si vous suivez le hockey, vous savez que ça se passe dans l'Est cette année, mais on va quand même vous parler un peu de l'Ouest. On a Edmonton qui sont entrés dans le top 3 de l'association Pacifique. On a Vegas en première position avec 92 points. On a Los Angeles et on a Edmonton qui forment le top 3 de cette association Pacifique. Sinon, dans la centrale, les très bonnes étoiles de Dallas avec 89 points, le Wild du Minnesota et les champions en titre, l'Avalanche du Colorado, forment le top 3. Et du côté de la carte spécial qui pourra accéder aux séries. On a Seattle, Winnipeg, Calgary et non loin de là, Nashville. Donc, si on regarde ces quatre-là, le Seattle, Winnipeg, Calgary, Nashville, moi, j'aime beaucoup Seattle. Je trouve que cette année, ils ont réussi à rebondir, hein, définitivement, en allant chercher, entre autres, plusieurs joueurs dans l'entre-saison. Qui penses-tu qui pourra accéder aux séries?
Moi, je pense que ça va rester comme ça. Moi, je crois.
Donc, Seattle et Winnipeg.
Je pense que c'est Seattle et Winnipeg. Calgary, ça va pas, très bien. 4 victoires, 3 défaites, 3 défaites en prolongation dans leurs 10 derniers matchs. Puis Nashville, je crois pas vraiment assez à leur attaque.
Ça va pas bien de ce côté-là.
Non, c'est ça. Donc, je crois vraiment en plus plus à Seattle puis Winnipeg. Puis d'ailleurs, Winnipeg, je pense que c'est peut-être une carte surprise là pour les séries là. C'est une équipe qui a un excellent gardien de but, ben, qui ont quand même de l'offensive.
On en parle pas assez, je pense, de leur gardien de but là. Hellebuck qui est à mon humble avis un des il est dans le top 5, ça va sans dire, ouais, des gardiens de la Ligue nationale.
Absolument.
Sinon, on a peut-être un top 3. En tout cas, c'est un gardien qui m'impressionne match après match. Mais là, on vient de faire une petite tournée de ce qui se passe pour la course aux séries. On a du côté de l'Ouest, juste pour répéter, Seattle et Winnipeg, on croit que ce sera eux qui pourront accéder aux séries. Et du côté de l'Est, on parie sur Pittsburgh et sur les Panthères de la Floride. On va suivre ça et on va suivre aussi le fond du classement, parce que je trouve ça assez intéressant de voir qui aura le plus de chances de repêcher le plus haut possible. Il y a les Canadiens qui continuent de perdre cette semaine. Ça a été catastrophique. On a perdu 9-5 contre les Panthères.
Ouais, des parties avec beaucoup de buts. Hein?
Ça a été passe-moi l'expression, assez rough, merci.
Ouais, ouais.
Et moi, j'en suis quand même... je suis content de voir ça. On a on est rentré dans les 5 pires équipes de la Ligue. Et ça me fait plaisir parce que ça augmente nos chances à la loterie dont on abordait plus tôt à l'émission.
On pourra aussi vous revenir là, sur les séries. Notre dernière émission qui est le 16, si je me trompe pas, le 16 avril. Oui. On va faire là, un petit spécial sur les séries, là, nos prédictions et tout, parler des duels qui vont se passer là, pendant les séries. Donc, à suivre.
Restez à l'écoute, c'est à tous les dimanches de 19h à 20h. Puis ça tombe bien parce que la majorité des matchs de hockey dans la Ligue nationale, c'est à 7h le soir. On le sait qu'il y a des fois des matchs dans l'après-midi, des fois un peu plus tard évidemment avec le décalage horaire. Et là, en ce moment, il y a 3 parties qui ont lieu et des parties qui vont peut-être avoir un impact sur le classement. Je veux commencer du côté de l'Ouest avec Saint-Louis contre Winnipeg. C'est 1-0 Saint-Louis. Ça vient tout juste de commencer. Il reste à peu près une quinzaine de minutes à faire en première période. Mm-hmm. Les Rangers, Philip Hytill qui vient de compter. Et moi, je suis assez content de voir que les Rangers poursuivent sur leur lancée. Ça va plutôt bien. Ils ont gagné 6-0 hier contre les Penguins de Pittsburgh. Et un peu le même nombre de temps à faire en première période. Ça a tout commencé à 7h. Fait qu'il reste à peu près 15 minutes en première. Finalement, ton équipe, les Devils, qui affrontent méchant Lightning de Tampa Bay. C'est 1-0 pour Tampa Bay. Est-ce que tu peux me dire qui a compté du côté de Tampa?
C'est Kucherov qui a marqué sur un mauvais jeu de Ryan Graves en défensive. Pas capable de dégager la rondelle. Le Lightning garde la rondelle dans la zone offensive et marque 1-0 Tampa Bay.
On va vous tenir au courant pour la prochaine heure. C'est donc 1-0 Saint-Louis contre Winnipeg, 1-0 Rangers contre Nashville et 1-0 Tampa contre les Devils. On voulait terminer le premier segment de l'émission avec finalement une tradition ici à l'émission. On vous parle des 3 étoiles de la semaine. Je te laisse parler, Raphaël.
Oui, on débute ça avec la 3e étoile de la semaine. Le gardien de but des Rangers de New York, Igor Shesterkin, qui a connu une bonne saison, pas autant bonne que l'année dernière, mais qui commence à prendre un petit peu là, son momentum. On dirait là, 3 parties cette semaine, un pourcentage d'arrêt de 948, 1.67 de moyenne de buts alloués et 3 victoires là, pour aider les Rangers à continuer sur leur bonne lancée pour les séries.
Il s'est coupé les cheveux. Oui. J'ai remarqué ça parce que Igor Shesterkin, pour la petite histoire, qui était reconnu finalement pour quand même avoir des cheveux aux épaules, et là, il s'est coupé les cheveux. On parlait la semaine dernière avec Jason de superstition et tout. Peut-être que ça a un lien.
On essaie de changer un petit peu le momentum. On essaie de changer un petit peu notre routine. Des fois,
je le vois pas vraiment dans la course pour le Vezina, le trophée du meilleur gardien cette année. Mais oui, t'as raison de dire que c'est un très bon gardien, mais une saison un peu moins impressionnante que l'année dernière.
Ouais, c'était beaucoup demandé de répéter l'année dernière. Là, l'année dernière, Igor Shesterkin aurait très bien pu gagner le trophée Hart, selon moi. Là, c'est à ce point-là. Donc, en effet. On poursuit avec la 2e étoile de la semaine. On parle du jeune attaquant des Sénateurs d'Ottawa, Tim Stützle.
Oui.
L'Allemand a terminé sa semaine avec 8 points en 4 matchs, donc 4 buts, 4 passes. Semblerait que c'est trop peu trop tard pour les Sénateurs cette saison, mais ce n'est que partie remise pour eux. Là, ils ont vraiment un bon alignement, beaucoup de jeunes joueurs qui commencent à progresser, donc ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on les revoie là, dans la course aux séries dès l'année prochaine.
Des jeunes joueurs et une belle acquisition à la date limite des transactions, oui, qui pensait peut-être participer aux séries pour une première fois, j'imagine, de sa carrière, vu qu'il a seulement joué avec les Coyotes. Mais ben, l'année prochaine, je pense que on pourrait parier sur les Sénateurs l'année prochaine. Je sais pas si tu te rappelles un peu le contexte de début de cette saison avec il y avait Ottawa, il y avait les Red Wings et il y avait ben entre autres les Flames de Calgary qui avaient fait beaucoup de mouvements dans entre les deux saisons et les Sénateurs, je me disais entre autres avec Claude Giroux, avec Alex DeBrincat et là sont allés chercher Jacob Chychrun, sont allés chercher même Cam Talbot, je m'étais dit c'est peut-être une bonne année, mais ça prend du temps, on le sait.
Exactement.
Hein, que ça arrive pas tout d'un coup. Alors voilà, mais Tim Stützle qui est constant, qui impressionne encore et qui marque.
Oui, exactement. Puis pour notre première étoile de la semaine, on le connaît bien. On en a parlé d'ailleurs à l'épisode de la semaine dernière avec Jason. On parle de Nathan MacKinnon, le joueur de centre de l'Avalanche du Colorado, qui a complété sa semaine avec 9 points en 4 matchs, 2 buts, 7 passes pour lui cette semaine. Colorado là, qui continue à accumuler du momentum pour les séries. On a parlé d'eux tantôt, leur place est pratiquement faite là en série, donc ça va être à suivre pour ça.
L'Avalanche qui a joué toute la saison sans leur capitaine, Gabriel Landeskog, qui a été blessé. On le sait que c'est une pièce centrale quand même
Absolument.
De leur alignement, mais c'est un club, après une reconstruction qui est quand même bien bâti, ils sont capables de finalement sceller les brèches quand il y a des blessés. Moi, je suis quand même très content de voir que c'est pas le même rythme que de Tampa là, qui a été capable d'aller 3 saisons de suite en finale de la Coupe Stanley. Est-ce que l'Avalanche pourrait avoir une bonne course aux séries ou plutôt une bonne aventure en série? On verra.
On verra, mais une chose qui est sûre, c'est que la course à rendue dans les séries pour la Coupe Stanley dans l'Ouest va être beaucoup plus facile que dans l'Est, donc ça se pourrait très bien qu'ils réussissent à sortir de là puis gagner la conférence de l'Ouest là, puis se rendre en finale. Là.
J'ai l'impression que les Oilers d'Edmonton ne se laisseront pas faire.
Ça se peut très bien.
Une dure défaite l'an passé, on le sait, avec deux joueurs parmi les meilleurs au monde, si c'est pas les deux meilleurs.
Ouais.
On veut les voir gagner à Edmonton. Ils sont allés chercher Ekholm.
Ouais.
C'est plus devant le but là, que ça semble un peu problématique. Quoique Stuart Skinner semble être le gardien numéro un cette année avec Campbell qui est blessé. C'est particulier là, à Edmonton. Et ben je profite aussi du fait qu'on est en direct de dire que Mika Zibanejad a compté. C'est maintenant 2-0 pour les Rangers et moi, ça me fait très plaisir parce que je suis allé chercher Yaroslav Halak, notre ancien du Canadien qui qui est maintenant gardien des Rangers et ben une petite victoire ça m'aiderait dans mon pool bien évidemment. On va y aller avec une chanson qui s'appelle Une seule langue, c'est notre boy Ken Lo en featuring avec Namani. On vous revient et on a plein d'autres sujets là à vous parler. Entre autres, on veut parler de la rencontre des directeurs généraux qui a eu lieu cette semaine en Floride. Ils ont parlé des nouvelles règles, de changement du cap salarial, des séries qui pourraient avoir d'autres formats. Comme à son habitude, Carey Bettman qui s'est montré peu ouvert, il s'est dit comme c'est en ce moment,
ça
pourquoi
va bien,
changer
statu quo.
Voilà, lui qui est fan véritablement d'une équipe en Arizona. plus de nouvelles après cette chanson de Ken Lo. Vous écoutez Tête de hockey.
Sincère et honnête, on en a parlé. Mais est-ce qu'on l'a compris? Nourri par le combat, solide parmi les zombies. Hey, hey, je te parle maintenant, dis-moi pas, ça va bien aller. Il faut ça aujourd'hui, on se met un bon vieux soca. Donc connaît toutes les notes, oh oui. On a deux joues, bien à côté, sur deux lèvres. Deux beaux yeux, mais une seule langue. Une seule langue, une seule langue. Pas besoin de se presser, se mentir comme des gens qui oublient qu'ils ont une seule langue.
Shorty bad and she hella rare. Models on the gram, they don't compare. Told her we can make a great pair. Doesn't even matter if I do not speak the front set. Ha, I'm a gentleman, I got hella manners. Ha, lover boy, that's my only language. When I got a vision, I got hella passion. Ha, staring at my fit, yeah, I got the fashion. Yeah, I got the drip. Yeah, so I'm feeling big, big. Got the Maggies in my hand, taking big sips. Shorty says she like my flow, I feel like Roddy Rich. Cause I'm getting out the box, it cannot hold me in. Took her on a date, nicely. Little mama wanna be my wifey. I'm a glacier boy, ha. Baby catching feelings so quickly. Why she blow my phone if she want me? Game top tier, you should trust me. Is that pretty money? Yeah, it must be, surely. I got hella pattern, wait, yeah, she got me whip. And I got a whip. It's a great match, so we swerving in a whip. She might rather die, yeah, she always do it right. Says she always better when I got her by my side, eh.
Faudrait être sincère et honnête, on en a parlé. Mais est-ce qu'on l'a compris? Nourri par le combat. Solide parmi les zombies. Hey. Je parle maintenant, dis-moi pas, ça va bien aller. Il faut ça aujourd'hui, on se met un bon vieux soca. On connaît toutes les notes, oh oui. On a deux joues, bien à côté sur deux lèvres. Deux beaux yeux, mais une seule langue. Une seule langue, une seule langue. Tout notre temps, trop pas besoin de se presser. Se mentir comme des gens qui oublient. Une seule langue, une seule langue.
De retour à Tête de hockey sur les ondes de Chiz 94.3. On vous parle en direct du campus de l'Université Laval. On vous parle de hockey de la Ligue nationale. Et en direct, il y a Saint-Louis qui joue contre Winnipeg. C'est 1-0 Saint-Louis. Les Rangers, j'en ai parlé avant la chanson, qui menaient 1-0. Et ben c'est déjà 3-0. Mm-hmm. Et oui, avec 11-30 à faire en première période, en 11 minutes, bien sûr. Et tes très chers Devils jouent... à Tampa contre le Lightning, c'est 1-0 Tampa. On espère que le vent changera de bord. On veut vous parler de la rencontre des directeurs généraux en Floride cette semaine. Nouvelles règles, changement de cap salarial, les séries jouées autrement et autres sujets de discussion. On s'est posé la question entre DG et si un entraîneur pouvait contester une pénalité de bâton élevé, alors que ce serait un bâton de sa propre équipe. Donc, est-ce que des pénalités pourraient être annulées avec des révisions, un peu comme les révisions des buts, s'il y a un contact avec le gardien, ouais, ou des révisions de hors-jeu, par exemple. Et ben, c'est justement la possibilité de demander une révision pour d'autres situations que ce que je viens de nommer. Ben, c'était au cœur des négociations. Il y a eu plusieurs opinions à travers la Ligue, entre autres le DG des Hurricanes de la Caroline, Don Waddell, qui a dit « Be careful what you ask for » et il a amené quand même un bon point. Il avance qu'une vérification plus fréquente pourrait retarder le jeu et même causer plus de pénalités. Bien évidemment, si on remet tout en question, on peut regretter des décisions. Je regardais des parties hier soir et ben j'ai vu les Maple Leafs finalement contester un but des Sénateurs d'Ottawa et le coach des Maple Leafs, peut-être pourrais-tu me confirmer son nom, il a, je pense, en carrière, ou du moins cette saison-ci, sur 11 vérifications, 10 réussies. Mm-hmm. Donc, les coachs sont pas mal certains quand ils le font. Ouais. Mais oui, justement, là, Don Waddell des Hurricanes à Caroline, lui qui dit « Faut faire attention, il y a plusieurs dirigeants des équipes, dont Kent Hughes du Canadien de Montréal, qui se sont montrés en faveur, eux, de révisions supplémentaires, parce que ben ça pourrait aussi éviter des erreurs, là, parce qu'on le sait, ça se joue extrêmement vite, le hockey, en 2023. Les directeurs généraux ont quitté la rencontre aussi en anticipant une hausse d'un million du plafond salarial. C'est pas juste au niveau du... de l'épicerie ou du gaz que le prix augmente. Les contrats des joueurs aussi coûtent plus cher et on veut plus de place sur notre notre masse salariale. On veut augmenter ça d'un million. C'est à 82,5 en ce moment et on voudrait l'augmenter à 83,5. Et durant la pandémie aussi, il y a eu beaucoup de dettes qui ont été encourues par les équipes et on ne sait pas si la Ligue va obliger de payer ces dettes-là. On le sait que jouer à guichet fermé devant des estrades vides, c'est pas bon ça pour ceux qui veulent faire de l'argent. Surtout quand la bière est à 14$, ça fait beaucoup d'argent.
En effet.
Batman, comme on l'a dit avant d'aller en pause musicale, qui a préféré le statu quo, lui, il a réitéré le fait que le format actuel aussi des séries éliminatoires convenait. On s'est dit, on aimerait peut-être revenir au format qu'on avait avant, là, c'est-à-dire 8 équipes de chaque côté.
Ouais. Comme 8 équipes comme il y a aujourd'hui. La seule différence, c'est qu'avant, il y avait un reclassement, si on voulait, qui était fait. Donc, dans chacune des deux conférences, on avait la première équipe contre la 8e équipe, deuxième équipe contre la 7e équipe, troisième équipe contre la 6e, quatrième contre la 5e. Maintenant, c'est un petit peu différent. L'argument pour ça, selon moi, c'est que quand tu finis premier dans ta division, ben tu devrais avoir
le plus facile
tu devrais avoir l'adversaire le moins bon entre guillemets.
Ouais.
Puis c'est vraiment pas ça que ça fait ce format là.
Non.
Donc c'est tel que tel. Puis j'aimerais revenir un petit peu là sur les règlements comme tu disais, les nouvelles règles, les reviews si on veut ou les révisions qui seraient ajustées. Moi, je vais être 100% honnête avec toi, je regarde beaucoup de hockey. Je regarde beaucoup les Devils mais j'essaie de regarder aussi beaucoup d'équipes puis je suis constamment déçu par la qualité de l'arbitrage dans la Ligue nationale. Je trouve vraiment que c'est absurde.
On s'en est parlé dans la fois qu'on regardait les Rangers qui ils se font un peu aider là. Toi tu penses que les Rangers
non,
auraient...
c'est même pas ça. Les biais contre les équipes c'est tel que tel là. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une façon d'arbitrer dans la Ligue nationale, puis ça, je pense que c'est très dur à argumenter contre ce fait-là. Que, exemple, une équipe qui gagne 3-1 en troisième période aura pas le même bénéfice du doute d'un arbitre face à l'équipe qui perd.
Ouais.
L'arbitre va toujours essayer de donner une chance de plus à l'équipe qui perd pour que ensuite de ça, la Ligue puisse dire « Ben gars, t'as-tu vu, dans cette partie-là, moi j'ai donné 4 punitions d'un côté, 4 punitions de l'autre, c'est égal. » Mais la réalité, c'est qu'une punition, c'est une punition.
Ouais.
Faudrait que les arbitres de la Ligue nationale arbitrent le match comme il se doit, call la game, comme on dit, call les jeux comme il se passe. Si une équipe commet 6 infractions puis une autre équipe en commet une, on s'en fout que c'est pas égal. Le but, c'est que les calls soient faits en conséquence, puis que la qualité de l'arbitrage soit neutre. Il y a pas de question de dire j'ai déjà donné 4 punitions à cette équipe là, je peux plus vraiment leur en donner, je vais essayer de trouver n'importe quoi pour pouvoir donner une punition à l'autre équipe. Ouais. Ça je trouve ça ridicule.
Ben je regarde le match hier entre les Hurricanes de Caroline et les Flyers de Philadelphie, les Hurricanes qui tiraient de l'arrière toute la partie attendaient jusqu'à la dernière minute, littéralement, de la partie pour avoir leur premier avantage numérique.
Ouais.
Toi, t'aurais pas de problème, justement, si une équipe a 4 avantages numériques, c'est-à-dire que l'autre équipe a eu 4 punitions, y aurait pas nécessairement d'équilibre à trouver, là.
Non, si c'est comme ça pour tout le monde, je vois aucun problème. Qu'est-ce que ça fait, c'est que ça cause des problèmes. Aujourd'hui, quand je regarde une feuille de match à la fin d'une partie, puis que je vois qu'il y a une équipe qui a eu 5 punitions, puis que l'autre a eu une, là, je me dis, il aurait pu avoir plus de punitions de l'autre côté.
Ouais.
Parce que c'est sûr qu'il y a eu des infractions. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y en a eu.
Ouais.
Fait que je comprends pas pourquoi, à la base, une punition, c'est pas une punition. Tu sais, je comprends pas ce principe-là de dire, là, il y a une équipe qui a eu plus de punitions que l'autre, donc on va moins les punir, puis on va commencer à donner des punitions pour des infractions moins graves de l'autre côté pour que ça devienne égal.
Ben,
le but, c'est pas que ça soit égal.
Il y a un peu de psychologie aussi là-dedans, là, parce que quand t'es un arbitre et que tu te fais crier dessus par un des coachs qui est pas content parce qu'il y a plein de pénalités, tu veux peut-être moins y en donner et d'en donner plus à l'autre équipe.
Ben, qu'est-ce que je vais répondre à ça? C'est si t'es pas capable de prendre la pression, sois pas arbitre dans la Ligue nationale de hockey. La réalité, c'est qu'il y a le jeu se passe sur la glace.
Ouais.
Il y a des infractions qui sont commises. Appelle les infractions comme elles sont.
Ouais.
Il devrait pas avoir de question de moi je veux que ça soit calé égal des deux côtés. Je trouve ça ridicule.
Je veux juste prendre un petit temps pour faire une mise à jour sur la partie des Rangers face aux Predators. C'est maintenant rendu 5-0. Le gardien que j'ai failli prendre dans mon pool, Lincoln, a pris la direction du banc pour laisser sa place. C'est ça, 5-0. Puis il reste à peu près 8-9 minutes à faire. Il y a aussi Saros qui revient devant sa cage. On va voir comment ça va se dérouler cette partie qui promet. Je veux aussi prendre un temps pour terminer cette rencontre-là là, avec les directeurs généraux. On a parlé de comment les parties devraient se terminer en cas d'égalité. On a changé beaucoup de règles dans les dernières années. Mm-hmm. On a commencé à faire du 3 contre 3 en prolongation durant 5 minutes jusqu'à temps qu'il y ait quelqu'un qui compte. Après ça, c'est les fameux tirs de barrage.
Ouais.
Mais on pense peut-être encore une fois changer ça, améliorer. Est-ce que tu as eu des propositions qui t'ont allumé?
Ben moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup qui est discuté là dans la communauté du hockey puis à travers les fans, que ce soit sur Twitter, sur Instagram et tout.
Dans les forums aussi.
Ouais, exactement. Mmh. Je pense que les gens sont tannés des tirs de barrage.
Pourtant, j'aime tellement ça.
Mais je comprends, puis c'est un spectacle.
C'est stressant.
Mais la réalité, c'est que c'est pas représentatif du jeu. Ouais. C'est pas représentatif d'une partie de hockey, les tirs de barrage.
Mais mettons,
c'est
comme dans un pool où les victoires et les défaites du gardien sont comptées, pour une défaite, pour un gardien, c'est assez crève-cœur là, d'avoir une défaite comme ça en tirs de barrage.
Tu sais, ça serait l'équivalent de dire bon, une partie de la NBA est terminée, donc on va faire un concours de 3 points pour déterminer c'est qui gagne.
Ouais.
C'est l'équivalent. Pourquoi le 3 contre 3, là, ça finit souvent parce que avoir autant de glace que ça, normalement, ça cause des buts. Puis c'est normal. Parce qu'il y a beaucoup plus d'espace, le jeu est beaucoup plus rapide, les contre-attaques se font à un niveau assez exceptionnel.
Donc, c'est quoi la proposition de seulement garder ce format-là 3 contre 3?
Si c'était moi, j'augmenterais la prolongation à 3 contre 3 de 5 minutes à 10 minutes.
Mm-hmm.
Je pense que ça l'aiderait beaucoup. C'est beaucoup plus représentatif, le jeu sur la glace, que des tirs de barrage, tant qu'à moi.
Faut le dire aussi, une fois que ça a été implanté dans la Ligue nationale, les coachs envoyaient leurs joueurs en disant « Vas-y, va scorer, patine le plus vite, vas-y, fais des feintes et tout. » Puis j'ai l'impression, avec le temps, il y a des stratégies qui se sont formées. Il y a des équipes qui ont été très bonnes en 3 contre 3, des équipes qui sont atroces en 3 contre 3.
Ouais.
Donc, le côté de, finalement, avoir une façon de jouer plus fidèle à un vrai match en guillemets, parce que oui, un tir de barrage, c'est pratiquement c'est presque un match des étoiles.
Exactement. Puis surtout qu'en série, il n'y en a pas.
Ouais.
En série, c'est 5 contre 5, jeu normal, continuel jusqu'à temps qu'il y ait un but.
Ouais.
Pourquoi?
Cet argument-là est intéressant.
Pourquoi dans la saison régulière, si on veut qu'il y ait un côté excitant qui soit un peu moins représentatif, on a juste à faire 10 minutes de 3 contre 3. Les tirs de barrage, ça n'a aucun lien. Mm-hmm. C'est vraiment une compétition de talent. C'est un skills competition. Ça n'a aucun rapport avec le jeu d'équipe. Ça n'a aucun rapport.
Mais c'était quand même une bonne proposition avant, il y avait les
c'était
nuls.
Les égalités avant, c'est ça. Ça c'est correct.
J'ai un peu de problème avec ça.
Ça c'est correct que la Ligue nationale a essayé d'amener quelque chose de différent.
Ouais.
Mais la réalité, c'est que c'est pas représentatif.
Ouais.
Moi, je pense que 10 minutes de 3 contre 3, le nombre de tirs de barrage réduirait d'une façon significative. Puis je pense que les joueurs aiment beaucoup plus ça aussi que déterminer un match de hockey sur des tirs de barrage.
Écoute, Raphaël, on parle et les Rangers continuent de compter. C'est 6-0. C'est 6-0 du côté du Madison Square Garden. On va y aller pour une brève pause publicitaire. Au retour, on poursuit avec Tête de hockey que vous écoutez sur les ondes de Chiz 94.3.
On survit, on esquive les coups de matraque jusqu'à temps qu'on soit égaux. Plongeons le monde, vous plaque, hey yo! Appelle-moi la Lionne, c'est chaud!
Écoute locale avec Chiz 94.3.
C'est le printemps à l'Impérial Belle. Le 13 avril, laisse-toi entraîner par l'univers festif et désinvolte du petit Béliveau. Le 14 avril, c'est Lou Adriane Casti qui va t'impressionner avec sa présence scénique envoûtante. Viens voir Petit Béliveau et Lou-Adrien Cassidy les 13 et 14 avril à l'Impérial Bell. Billets en vente au impérialbell.com.
De retour à Tête de hockey sur les ondes de Chiz 94.3. Il est 19h38 minutes. Félix Duchesne au micro à côté de Raphaël, côté Rioux. Et oui, on a trois matchs assez excitants en ce moment qui ont lieu, mais surtout les Rangers contre les Prédateurs, que c'est maintenant 6-0 pour New York. Il reste un peu plus de 5 minutes à faire en première période. On va voir si les Rangers vont pouvoir garder ce rythme jusqu'à la fin de la partie. Et les Devils qui perdent 1-0 contre le Lightning de Tampa Bay. On va voir s'ils sont capables de renverser la vapeur. On a beaucoup de sujets à vous parler aujourd'hui. On va même faire un petit débat aussi en conclusion d'émission. Mais on veut parler, oui, des équipes de bas de classement depuis le début de la saison de notre émission Tête de hockey. On vous parle de reconstruction. On vous parle de la stratégie de tank, c'est-à-dire de perdre presque volontairement ou du moins enlever des joueurs, des pièces centrales de l'alignement pour avoir peut-être une version un peu plus, on va dire, C ou même B- de notre alignement initial. Quand un joueur a un petit bobo, on lui donne son congé plus facilement que si on est dans une course aux séries, par exemple. Et je vais parler des Flyers de Philadelphie. Je pense que pour ceux et celles qui suivent le hockey dernièrement, du côté de Philadelphie, ça va assez mal. On a eu un nouveau coach pour la saison, John Tortorella, ce coach assez coloré, si tu me passes l'expression. Il a quand même gagné une coupe avec Tampa Bay. Il a été coach à Vancouver. Il a été coach à Columbus. Est-ce qu'il a fait d'autres adresses ou... John Tortorella, je pense que c'est pas mal ça.
Tampa Bay, Vancouver... Columbus. Les Flyers, Columbus.
Et maintenant, Philadelphie.
Exactement.
On a eu une saison, j'ai envie de dire, un peu en dents de scie. Il y a eu des bons côtés. Entre autres, je pense à Owen Tippett, qui arrivait des Panthers de la Floride, qui a réussi un peu à se réinventer. On a un énigme devant le filet. Est-ce que Carter Hart va finalement devenir un genre de Carey Price? Il y a beaucoup de gens qui prévoyaient avoir élucidé le mystère du gardien de but des Flyers de Philadelphie. On a changé de directeur général suite à la date limite des transactions qui a été assez calme du côté de Philadelphie. Beaucoup voulaient voir James Van Riemsdyk changer d'adresse. La base des partisans qui était vraiment fâché là, de voir que celui qu'on surnomme JVR restait, parce que ça peut sembler un peu contradictoire là, comme phrase, mais il voulait avoir d'autres choses en retour que James Van Riemsdyk, qui est sur une pente descendante en ce moment. Ça va pas très bien. Eh bien là, il y a un Québécois qui a joué pour le Canadien de Montréal, qui a surtout joué pour les Sabres de Buffalo, mais qui a passé aussi une bonne partie de sa carrière à Philadelphie. Et j'ai nommé Daniel Brière. C'est pas nouveau. C'est sorti cette semaine. Il y a même d'autres nouvelles associées, entre autres, à son fils qui sont sorties dans les médias.
Une histoire assez loufoque, là.
Voilà. Mais on veut surtout parler des Flyers et de leur reconstruction. Peut-être d'autres têtes de hockey qui vont se joindre à Daniel Brière pour reconstruire cette équipe-là. J'ai parlé de Carter Hart tantôt. Est-ce que peut-être que de l'échanger, ça ferait en sorte qu'on pourrait repartir la machine? Mais je voulais te poser la question, Raphaël. On parle de reconstruction, mais sur quelle base? Est-ce qu'il y a des bons éléments que tu vois chez les Flyers qui méritent de finalement leur faire confiance et de construire autour d'eux? Est-ce qu'il y a des joueurs pour toi qui doivent quitter absolument? Comment tu vois ça?
Ben, c'est certain que je dirais pas le bois mort, mais il y a beaucoup de vieux joueurs à Philadelphie qu'on pourrait sûrement se débarrasser, aller chercher des jeunes joueurs ou des choix repêchage.
Ouais.
Tu l'as mentionné, James Van Riemsdyk, il y a aussi Kevin Hayes qui pourrait peut-être être là, du bon trade bait, là, si on veut, entre guillemets, pour
un appât
d'échange des Flyers. Ça ça pourrait être des bonnes options. Sinon, moi, j'aime beaucoup Joel Farabee, qui est un joueur de 23 ans, qui est très bon. Il y a Scott Laughton aussi, qui a seulement 28 ans. On voit aussi du côté de la défensive, là, on a Travis Sanheim, qui est pas mauvais du tout. Du côté défensif, Ivan Provorov, Rasmus Ristolainen, c'est peut-être des joueurs...
Provorov, il va changer de place, je pense.
Oui, je pense que oui, éventuellement, c'est certain. Puis les Flyers, c'est vraiment un début de reconstruction. Là. Ouais. Bien honnêtement, c'est pas l'équipe avec la meilleure, le meilleur bassin d'espoir. Par contre...
Je voulais qu'on parle de ça, parce qu'on se fait souvent des petits quiz rapides sur qui a été repêché en premier, de quelle année, dis-moi, de quelle cohorte. Puis ben les Flyers, dernièrement, au niveau du repêchage, ça a été un peu... Ils ont été très malchanceux avec leur choix, je ne sais pas comment le dire.
Leur dernier choix qui était très haut, c'était le deuxième choix au total en 2017. Les Devils avaient le premier choix cette année-là. On choisit Nico Hischier, qui est maintenant un joueur de centre, là, un premier centre établi dans la Ligue nationale, là, des deux côtés de la patinoire, points par match. Mais le choix qui ont eu, eux, Nolan Patrick, c'était soit Hischier ou Patrick. C'était ça au numéro 1. Les Devils ont choisi Hischier. Les Flyers sont allés avec Patrick, logiquement. Puis Nolan Patrick, qui a eu beaucoup de problèmes de blessures au début de sa carrière, n'a jamais réussi vraiment à s'installer, à faire sa place. Ouais. Il m'a changé d'organisation. Donc, c'est un peu triste, mais des fois, c'est comme ça. C'est triste.
Mais je pense à un autre nom, Cam York, repêché juste avant Cole Caulfield.
Ouais, Cam York, par contre, va être un bon défenseur, selon moi.
Mais c'est long. Puis Cole Caulfield à Montréal, on sait les émois qu'il crée auprès de ses partisans. Ça va mieux, on va dire ça comme ça. Parce que Cam York, oui, on a peut-être des brèches d'étincelles, de succès. On le voit aller. On se dit, il a été repêché quand même assez rapidement. Mm-hmm. Mais moi, je trouve que c'est... Tu sais, John Tortorella, quand il est arrivé à Philadelphie, il s'est fait poser la question sur quelle base tu t'appuies? Qu'est-ce qui fonctionne dans cette équipe-là? Et il a été assez clair, merci. Et c'est pour ça que je disais que c'est un personnage assez coloré. Il a dit, il n'y a rien qui marche ici.
Ouais.
On n'a pas de base, on n'a pas de bons joueurs, on n'a pas une culture de gagnant. Ça va mal, rien ne va plus, comme dirait l'autre. Puis je vais un peu dans le même sens. Je regarde le bassin, t'as parlé de Farabee. Moi, je nommerais, entre autres, peut-être Morgan Frost, Noah Cates.
Ouais, tu sais, le meilleur espoir que les Flyers ont, c'est assez clairement Cutter Gauthier.
Cutter Gauthier,
dans le fond, qui a été le cinquième choix au total en 2022.
Exact.
Un excellent joueur qui joue pour Boston College dans la NCAA cette année. Connu vraiment une bonne saison. Là, on parle de 37 points en 32 matchs pour lui. 16 buts, 21 passes pour 37 points en 32 parties. Donc, c'est vraiment le meilleur espoir. Selon moi, c'est probablement un top 10, top 15 espoir dans la Ligue. Je pense que ça va être un bon joueur d'énergie. Mais autre que ça, là, c'est assez...
Mais là, on parle de ceux qui vont être de la prochaine génération.
Ouais, ouais.
Tantôt, tu parlais de Bois-Mort. Je pense que c'est un peu intense, mais ça va mal à Philadelphie.
Ouais, en effet.
On peut penser à Sean Couturier. On peut penser à Nicolas Deslauriers qui est arrivé. Puis moi, je trouve qu'il inspire quand même une certaine hargne qu'on a l'habitude de voir à Philadelphie.
Sean Couturier, tu l'as mentionné, je pense que c'est un bon joueur à garder. Ouais, il y a Travis Konecny aussi qui est blessé.
Ouais, mais c'est Travis Konecny, James Arendsdijk, le train est passé, j'ai l'impression. Donc oui, je vais dans le même sens que toi, Cutter Gauthier, ça pourrait être le premier pilier pour la reconstruction. Après, moi, je pense que Morgan Frost a quand même quelque chose à apporter à cette équipe-là.
Mais je veux dire, Konecny, 26 ans, cette saison, en 52 matchs, il a 54 points. Travis Konecny, c'est un bon joueur de hockey. C'est le genre de gars que tu gardes quand tu es en reconstruction, il a juste 26 ans.
Qui va être un vétéran pour la reconstruction.
Exactement, c'est un bon joueur, Travis Konecny, puis c'est un gars qui a de l'énergie. Mais, tu sais, au niveau des espoirs, les Flyers. C'est assez faible présentement.
Ouais.
Mais ça va mieux aller dans les prochaines années parce que les Flyers, pour moi, on a quelques années là, dans la cave. Là.
On l'espère que ça ira mieux parce que les Flyers, ben, c'est une marque assez forte pour la Ligue nationale. Je pense qu'ils ont... nous, on a grandi avec les Scott Hartnell de ce monde, avec Daniel Brière quand il jouait avec les Flyers. Il était bon en série. Là. Ils ont battu les Canadiens. C'est vraiment un club qui mérite de remonter. Mais si tu veux mon avis, si tu veux mon deux cents là-dessus, je pense que la reconstruction du Canadien va un peu mieux. Elle est déjà entamée, en tout cas.
Ouais, exactement. Exactement. Les Flyers, tu sais, c'est drôle à dire, mais c'est un marché qui a un peu toujours eu la mentalité du CH de on reconstruit pas, on fait juste rajouter des éléments. Je pense que les Flyers, il va vraiment falloir qu'on détruise la fondation puis qu'on reparte à zéro éventuellement.
Mais c'est difficile. Ça prend beaucoup d'humilité. Ça prend aussi de la patience. Toi-même, tu le sais, du côté des Devils du New Jersey, on parlait de reconstruction et comment le faire, c'est aussi en apprenant à perdre pour mieux gagner. Et maintenant, en 2023, les Devils sont la troisième meilleure équipe de la Ligue nationale.
Ouais.
On y va en pause musicale. C'est Hot Wind Blows de notre cher boy Tyler, the Creator, featuring le meilleur rappeur, selon plusieurs, Lil Wayne. Au retour, on va débattre. Pour une première fois, Raphaël et moi, on va vous demander aussi qui choisiriez-vous pour bâtir une équipe, pour reconstruire. Preneriez-vous un centre, un bon centre, là, à la Sidney Crosby ou Evgeny Malkin ou Nick Suzuki?
Oh, ouais.
Ou un choix, un défenseur, Victor Hedman?
C'est un joueur de centre de franchise versus un défenseur de franchise.
Voilà, on débat sur cette question après Hot Wind Blows.
Ladies and gentlemen, we just landed in Geneva. Yeah, that's in Switzerland. We're on the yacht. A young lady just fed me French vanilla ice cream. We all got our toes out, too. Call me when you get lost.
I'ma travel the globe, you keep the block hot, driver. Open the door for me, my hair hurt, find us. We playing hide and seek with the passports. Where the fuck we at? Oh, the pilot gotta remind us, yeah. The luggage is piling, I need a close to wear. So many stinky sit in my wallet, look like a folding chair. The Cartier so light on my body, thought I floated here. We boated here, it's Tunchi and Tyler, but call me Baudelaire, yeah. Out in Switzerland, travel with my bitch, she gave me kissing dog. I love when she let me rub her like Michelin. 100 grand to sleep on the bird, the wings are whistling like... Man, they ain't listening. We cross the line like immigrants and benefit from it. Keep on stunting on these niggas, make them sick to their stomach, man. Y'all don't understand. Fish so fresh that you could taste the same. Yeah, we getting lost, but we know who we aim. Bada, sun, sun, sun. Treat that last part like you niggas ain't saying nothing. Yeah.
You see these excursions right here? Just too lavish to post on the gram.
Gangsta, greasy.
Excuse me, pardon me. The wind, it blows so hard at me like Mother Nature arguing about some baby father beeping. I'm stuck in the middle of the sandwich like slaughter me. Got my middle fingers to the cameras, that's recording me from y'all to me. Brrr. Stop calling me unless you're ordering. I'm on the beach, I got my feet out. And I stay on my feet, the corner beat, I'm on a deep route. Just throw the ball at me, thought all this lean would have me see now. I guess they see now, that's touchdown. Catch a beat down like I catch touchdowns. I fuck around and slow the beat down and take the drums out. The speed of my blunts are greed, I'ma eat my own flow. And I'm in need of a flaw, I'ma eat me a rap, but I might as well eat me a hoe.
Oh.
I'm hot as hell when the weather is freezing and cold. As a devil, a demon, and ghost. I'ma get even, and even get even some more. It's too late to even get low. Bye, whoop gang, that's what I need you to know. Moonlight, Weezy the goat. The wind beneath my wings, Desert Eagle underneath my coat. Yeah. Moolah.
Bitch. Hard wings.
Over here admiring the view of the mountains from the lake.
De retour à Tête de Hockey. à Sur les ondes de Chiz 94.3. Oui, dis-je bien, Félix Duchesne au micro, aux côtés de Raphaël Côté-Rioux. On vous parle de hockey à toutes les semaines et pour la première fois, on va débattre, Raphaël et moi. On veut savoir, pour une reconstruction, est-ce que vous favoriseriez un centre de premier centre ou un premier défenseur? Évidemment, chaque position a son avantage. Je peux révéler ma position. Moi, je pense que c'est avec un défenseur de premier plan qu'on peut finalement bâtir une équipe pour aller gagner une Coupe Stanley. Et de ton côté, qu'est-ce que tu penses que ça prend?
Moi, je vais y aller avec un joueur de centre.
Je te laisse t'expliquer. Vas-y.
Je pense que c'est beaucoup plus difficile dans la Ligue nationale de créer de l'offensive quand il n'y a pas de joueurs élites offensifs versus l'inverse. Je pense que c'est plus facile à être solide défensivement, bien défendre en tant qu'unité que de créer de l'offensive en tant qu'unité quand on n'a pas le talent offensif. Je pense que ce débat-là, selon moi, un excellent exemple de ça, c'est les Prédateurs de Nashville.
Ouais.
Les Prédateurs de Nashville, que dans les 5-10 dernières années, ont eu probablement les meilleures défenses dans la Ligue nationale.
Je parlerais peut-être plus de leurs gardiens de but, qui ont été capables, de, entre autres avec Pekarinen, maintenant avec Jussi Saros.
Oui, il y avait des bons gardiens de but, mais tu regardes Shea Weber dans son prime,
ouais.
Ryan Ellis dans son prime.
On n'oublie pas notre cher Piquet.
Ouais, Piquet, c'est venu un petit peu après.
On va le nommer. Il est allé à Nashville puis il les a amenés en finale.
Oui, mais il y a aussi Ryan Suter dans son prime.
Oui.
Roman Josi dans son prime.
Oui.
Mathias Ekholm dans son prime.
Oui.
Donc, tu vois qu'il y a beaucoup de défenseurs élites dans cette équipe-là, mais le problème à Nashville, c'est qu'il n'y a jamais eu de joueur d'attaque élite qui est capable de carry une offensive à la Connor McDavid, qui est un joueur de centre, à la Jack Hughes, qui est un joueur de centre, à la Austin Matthews, qui est un joueur de centre.
Ben, moi, j'irais avec le contre-argument.
OK.
Justement, tu parles de Connor McDavid. À Edmonton, on a deux plutôt dans l'émission, j'ai dit c'est pas les deux meilleurs joueurs au monde, parce que là, en ce moment, c'est les deux premiers en termes de points dans la Ligue nationale, le 97 puis le 29, mais on n'a toujours pas de Coupe Stanley à Edmonton. Mm-hmm. Devant le but, c'est un vrai casse-tête. À la défense, on a Darnell Nurse. On est allé chercher Ekholm pour peut-être s'inspirer un peu plus du modèle de Nashville. Si on regarde du côté de Toronto, avec Austin Matthews, avec Mitch Marner, on a deux attaquants de premier plan. Au niveau de la défensive, un peu comme Edmonton, on a Morgan Riley qui
est un excellent défenseur dans la Ligue nationale.
Oui, cette année, c'est plus difficile, par contre. Puis on a quand même une bonne défensive là, à Toronto. Il y en a qui vont dire que c'est une malédiction de pas être capable de passer la première ronde, mais on a quand même un modèle là qui est pas gagnant pour l'instant.
Mais je
veux peut-être amener un élément là, puis c'est plate parce que je veux pas finalement que le débat se termine tout de suite, mais je pense que ça prend un peu de tout. Si on regarde comment le Tampa s'est bâti avec Victor Hedman, avec Vasilevski, avec Stamkos puis Kucherov, tu regardes à Colorado, t'as Makar, t'as MacKinnon, t'as Landeskog, t'as pas de gardien de but.
Je vais te poser une question.
Ouais.
Moi, je pense que l'Avalanche du Colorado, sans Cale Makar l'année passée, gagne la Coupe Stanley pareil. Sans Nathan MacKinnon comme premier joueur de centre, t'es obligé de mettre ton deuxième centre comme premier joueur de centre.
Ouais. Mais il y avait quand même beaucoup de profondeur. Là. On avait Nichushkin qui a vraiment... Depuis qu'il est parti de Dallas, là, il a sa carrière entre les mains. Il est dans les meilleurs, un genre de profondeur. On a Lekkonen qui est capable de jouer en série. On a Landeskog qui est quand même le capitaine.
Sans l'ombre d'un doute.
Rantanen.
Mais si MacKinnon n'est pas là, à Colorado, c'est Nazem Kadri qui est ton premier centre l'année passée dans les séries.
Ouais.
La réalité, c'est que les Colorado...
Nazem Kadri, l'an passé, c'était un joueur de premier plan qui était dans les 10 meilleurs joueurs de la Ligue.
Mais c'est pas MacKinnon. Puis, tu sais, Colorado, on regarde la défensive. Byron Byram, Sam Girard, Eric Johnson.
C'est une bonne défensive, quand même.
Devin Taze aussi. Mm-hmm. Donc, c'est un bon top 4 solide sans Cale Makar.
Ouais.
Donc, je pense que c'est une discussion intéressante. Je pense que vraiment que auparavant, je pense que la Ligue nationale au début des années 2000, fin des années 90, jusqu'à, je dirais, peut-être la moitié des années 2010,
ouais.
Les équipes qui bâtissaient à partir de l'arrière, donc on part du gardien, défenseur à l'attaque, avaient beaucoup de succès. On l'a vu avec les Devils au début des années 2000. Mais plus le jeu avance, plus la vitesse du jeu, plus le jeu est axé sur l'offensive, je pense que c'est l'inverse qui se produit.
Mais encore là, puis je trouve ça un peu plate comme argument, mais c'est les faits qu'on a devant nous. Pour gagner, ça te prend tout. On regarde les Penguins de Pittsburgh, on avait Fleury, on avait Le Temps, on avait Malkin puis Crosby. Tu regardes du côté de Chicago, on avait le gardien de but Crawford, Seabrook,
Sharp. La première Coupe Stanley des Blackhawks, c'était Niemi.
OK, donc le gardien peut-être un peu moins...
Puis l'année passée pour l'Avalanche, c'était et Kemper qui s'est blessé, par contre.
Oui, c'est vrai, mais après ça, tu regardes du côté des Kings avec Drew Doughty, Jonathan Quick, Brown, puis Kopitar. Donc, ça nous prend un peu de tout, je veux dire, mais...
Ah, je suis 100% d'accord, ça prend un mélange. Ça prend un mélange, c'est certain. Ça dépend vraiment de la préférence.
Moi, les Blues en 2019.
Ouais, exact.
Il y avait Pietrangelo dans le temps. Ouais. Folk, qui était là, si je me rappelle pas, j'invente peut-être de quoi, là, mais on avait quand même Tarasenko, on avait O'Reilly,
oui.
On avait des bons joueurs, Bennington, Jack Allen aussi, dans le temps, Jack Allen aussi. Fait que on a besoin de plusieurs pièces et ben moi, je pense qu'on va devoir y aller pour la conclusion, mais j'avancerais que dans une reconstruction, faut penser à tout. Faut pas juste penser à la défense, faut pas juste penser à l'attaque. On a besoin d'un peu de toutes les pièces. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter.
Non, c'est vrai. Il y a une préférence. Il y a tout le temps une préférence.
Ouais.
Moi, un joueur de centre élite numéro 1, je pense que ça fait vraiment une grosse différence.
Mais c'est parce que maintenant, avec les joueurs de défensive, tu peux aller à l'attaque. Tu parles de Liu Qiu souvent.
Ouais, en effet.
C'est un joueur qui va être capable d'amener de l'offensive.
En effet.
On n'a pas parlé de Lennon aujourd'hui, mais c'est un joueur qui va amener de l'offensive. On a des défenseurs maintenant qui sont présents. On va parler du frère de l'autre, Quinn Hughes. Lui aussi est capable d'amener de l'offensive. Kyle McCarr qui amène l'offensive. Du côté des attaquants, c'est un peu peut-être plus difficile d'avoir un joueur dans le modèle de Patrice Bergeron, dans le modèle d'un joueur plus défensif. On a parlé la semaine passée de Philippe Dano, de Yannick Gourde, qui sont des joueurs de 200 pieds, qu'on appelle communément.
Exact.
Donc voilà, je pense que, comme dans toute question, c'est avec des nuances, c'est
exactement.
Avec beaucoup de facteurs à prendre en compte qu'on arrive avec une réponse et une solution. Ben voilà, on aurait pu...